sens aussi, par exemple, la proximité de Shunem par rapport à Naïm.
Eh oui, alors là, justement, tu m'invites ici à aborder un thème sur lequel je voudrais qu'on se concentre notre attention en cette fin de journée. Alors, de Jean le théologien, nous remontons à celle qui a eu du Verbe incarné une connaissance à nul autre pareil. Et je voudrais que maintenant on passe de Jean le théologien à la Vierge Marie. Et alors, comment est-ce qu'on va arriver à la Vierge Marie? Eh bien, en suivant les textes que nous propose le paysage, et vous allez voir qu'il nous invite à parler de la femme, pas dans la Bible. D'abord, nous sommes entre Shunem, qui est là-bas, et puis Naïm, vous vous rappelez? À Shunem, Élisée ressuscite le fils de la femme de Shunem, et puis à Naïm, tout le monde connaît le récit de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et puis le Carmel apparaît là-bas dans le fond. Il y a une histoire d'abord qui surgit là, notre pensée. Ensuite, nous avons devant les yeux, si nous tournons en direction du nord-est, là, le Tabor, et puis Harochet à Goïm, aux environs de Nazareth, là-bas. Et là, on ne peut pas ne pas raconter l'histoire de Déborah. Je commence par la femme de Shunem. Tenez, je vais plutôt vous faire part d'une expérience que j'ai faite à la synagogue. Quand je suis arrivé ici, il y a une trentaine d'années, là, j'allais beaucoup à la synagogue. Et je crois que ça m'a appris plus que sur le judaïsme que des cours, des conférences, tout cela. Parce que là, on pénètre à l'intérieur de la subjectivité juive qui s'exprime. J'allais régulièrement à la synagogue. Et je me trouvais un jour où alors on lisait la paracha de Vayera. Ça commence par Abraham à Mambré. Et vous savez comment ça se passe à la synagogue et à la Torah, et puis on lit la Torah alors sans mettre une syllabe, d'un bout à l'autre dans le cycle annuel. On roule la Torah, on l'enveloppe, on la couronne, on la met dans le tabernacle. Et c'est aussi saint pour les juifs que pour nous le saint sacrement. Et alors ensuite, alors on sort les prophètes. Les prophètes qui rentrent avec Josué. Et puis qui se termine avec Malachie. Et on prend un texte alors qui va illustrer ce qu'on a dit dans la Torah. Et pour moi, ça a été fulgurant cette histoire-là. Parce que nous trouvons, alors vous rappelez le récit de l'hospitalité que Abraham offre au personnage mystérieux, aux chaînes de Mambré. Et alors comment, dans ce contexte d'hospitalité, Abraham reçoit l'annonciation de la naissance d'Isaac. Et vous vous rappelez le scepticisme de Sarah, qui rit, d'ailleurs le mot Yitzhak, Yitzhak ça veut dire rire en hébreu, il y a des tas de jeux de mots là. Bon, et alors Sarah, les personnages, lui reprochent d'avoir ri, elle dit non je n'ai pas ri, si tu as ri, il y a des tas de jeux de mots là-dessus. Alors on attend le temps qu'il faut, on a lu l'histoire d'Abraham, on a lu suspense, pour finir après bien des années, le petit Isaac rit, et tout le monde est né, et tout le monde rit. Et alors l'histoire continue, et quand l'enfant a grandi, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et va l'offrir en holocauste sur la montagne que je te montrerai, en terre de Moria. Je ne me rappelle pas tout ce qu'on a vu sur le sujet. Et là, tu l'offriras en holocauste totalement. Et Abraham croit, et comme dit l'Épître aux Hébreux, il récupère son fils comme par une résurrection entre les morts. Bon, alors j'ai écouté ça, lu en hébreu, là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils vont sortir pour illustrer ce passage de la Torah? Alors, on s'est mis à lire le chapitre 4 du deuxième livre des rois, qui se passe à Shunem, là. Et c'est étrange. Moi, jamais j'aurais pensé à ça, qu'au dictionnaire. Et c'est seulement si on sait la Bible par cœur qu'on voit les analogies. Vous avez le prophète Élisée, l'homme de Dieu, qui reçoit l'hospitalité de la femme de Shunem. La femme de Shunem, son mari est âgé, elle n'a pas d'enfant. Élisée, qui a profité de son hospitalité, lui demande comment on pourrait la récompenser. Il interroge son serviteur Gehazi, qui lui dit qu'elle n'a pas d'enfant. Alors, Élisée la convoque et lui dit, exactement comme les personnages mystérieux à Sarah, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. La femme, comme Sarah, est sceptique. Elle ne rit pas comme Sarah, mais elle dit, ne te moque pas de ta servante. Scepticisme. Bon. Alors, l'enfant naît de façon miraculeuse, et puis on assiste à une scène là-bas qu'on imagine très bien au mois de juin, quand la moisson là, est dorée juste avant la moisson. Il est à la moisson avec son père, tout d'un coup, a-t-il attrapé une insolation, que sais-je, il dit ma tête, son père qui est un personnage assez fruste, il dit conduisez-le à sa mère. Alors il reste sur les genoux de sa mère pendant quelques heures et il meurt. Alors la femme, qui a une stature extraordinaire, là, dans son silence, ne dit pas un mot de trop. Hein. Élisée non plus ne dit pas un mot de trop. On a un dialogue là, étrange entre un homme qui ne dit pas un mot de trop et une femme qui ne dit pas un mot de trop. C'est tout à fait... Il faut aller voir ça.
Quand il en reste souvent où il y a des oui.
Alors il y a son mari qui elle dit seulement une annesse, on va aller voir le prophète Élisée qui est là-bas au Carmel. Alors son mari dit, pourquoi tu fais de la piété aujourd'hui? C'est pas la néoménie, c'est pas, je sais pas quelle fête. Reste en paix. Elle dit pas un mot de trop. Et puis là, elle va. Et puis elle, Élisée, elle lui tient les pieds, elle ne veut pas le lâcher jusqu'à ce qu'il décide à venir. Et Élisée vient. Et puis vous avez un de ces récits de résurrection, comme il y en a à la fois dans la geste d'Élie, dans la geste d'Élisée et dans l'évangile qui n'aura pas eu l'occasion de montrer que Jésus a fait plus que Moïse, plus que Élie, plus que Élisée. Enfin, il y a des tas de récits dont on ne voit pas la signification si on ignore tous ces récits de l'Ancien Testament. Alors, si vous réfléchissez sur ce texte, je me suis dit, mais c'est exactement la même structure. Hein, vous avez l'hospitalité, vous avez l'annonciation d'une naissance miraculeuse à une femme qui n'avait pas d'enfant, vous avez le scepticisme, vous avez la naissance miraculeuse, vous avez la mort et la résurrection. Et j'ai l'impression, je me suis dit, mais bon sang, ça nous changera un petit peu, on ferait une liturgie d'annonciation de la Sainte Vierge. Qu'est-ce qui se passera le jour où l'Église ayant retrouvé ses racines, ben, pourra repenser dans la logique biblique, dans l'élan des intuitions déjà perçues, ben, dans ce peuple qui garde une connaturalité avec la Bible, qu'est-ce que c'est que la structure même de l'Évangile? Vous avez l'annonciation, la naissance miraculeuse, hein, scepticisme mis à part, il n'y en a pas de scepticisme à la Sainte Vierge, comment cela se fera-t-il simplement? Et puis ensuite, la mort et la résurrection. Vous avez exactement dans l'élan des harmonies déjà perçues par la synagogue, la liturgie d'annonciation. Je ne relis pas les textes, vous les relirez vous-même dans cette perspective-là, et je suis sûr que vous ferez comme moi l'expérience de ces rapprochements qui sont fulgurants. Puisque tu insistes, moi je suppose ces textes connus pas ici, c'est ça qui est terrible, c'est que à force de vivre dans un peuple qui connaît la Bible depuis la petite enfance, on enseigne à l'école, et même si l'école est laïque comme on dit en France, eh bien ils ont au moins 4 heures de Bible par semaine en hébreu, c'est leur livre de classe. Alors on finit par ne plus comprendre que les Français ignorent ces récits. On pense être par allusion et on s'aperçoit souvent qu'ils connaissent pas. Élisée est passé à Shunem, et quand on est en haut de la tour là, qui est faite pour surveiller les forêts, on voit admirablement Shunem en contrebas. Pour aller à Naïm, pour faire une petite balade, on la fera après. Une femme de qualité, qui vivait, l'invita à table, et chaque fois qu'il passait, se rendait là pour manger. Elle dit à son mari, je suis sûr que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. Construisons-lui une petite chambre haute avec des murs, nous y mettrons pour lui un lit, une table, un siège, une lampe, et quand il viendra chez nous, il se retirera là. Alors Élisée reçoit l'hospitalité, et puis il dit à Gehazi, appelle cette bonne Shunamite. Il l'appela, elle se tint devant lui. Élisée reprit, tu t'es donné tout ce tracas pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Y a-t-il un mot à dire pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, je séjourne au milieu des miens. Mais la dignité de cette femme, pas de faveur, pas de piston comme on dit maintenant, non, je séjourne au milieu des miens. Il continua, alors qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Gehazi répondit, elle n'a pas de fils, son mari est âgé, appelle-la. Le serviteur l'appela et elle se tint à l'entrée, comme Sarah à l'entrée de la tente. Hein. À cette saison, l'an prochain, dit-il, tu tiendras un fils dans tes bras. Manifestement, le rédacteur ici connaissait par cœur l'histoire de Mambré. Elle dit, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Enfin, elle est sceptique comme Sarah, mais elle ne rit pas comme Sarah. La femme conçut, elle enfanta un fils à la saison que lui avait dit Élisée. L'enfant grandit. Un jour, il a retrouvé son père auprès des moissonneurs et il dit à son père, oh, ma tête, ma tête. Et le père ordonna son serviteur de le porter à sa mère. Celui-ci le prit et le conduisit à sa mère. Il resta sur ses genoux jusqu'à midi et il mourut. Elle monta l'étendre sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi l'un des serviteurs avec une ânesse. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? C'est pas la néoménie, c'est pas le Shabbat. Elle répondit, reste en paix. Elle fit sceller la messe et dit à son serviteur, mets-moi, ne m'arrête pas en route sans que je te l'ordonne. Elle partit là vers l'homme de Dieu au mont Carmel, qu'on va là-bas vers l'ouest. Lorsque l'homme de Dieu la vit de loin, dit à son serviteur, Gehazi, voici cette bonne Shunamite. Quoi sa rencontre? Demande-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? Ton enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Quand elle revenit l'homme de Dieu sur la montagne, elle saisit ses pieds. Gehazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, son âme est dans l'amertume, Dieu me l'a caché, il ne m'a rien annoncé. Elle dit, avais-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit de ne pas me leurrer? Et les élites à Guérazi, Saint-Terrain, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un, tu ne salueras pas. Si tu, quelqu'un te salue, tu ne lui répondras pas. Tu étendras mon bâton au-dessus de l'enfant. Mais la mère de l'enfant dit, aussi vrai que Dieu est vivant, que tu vis toi-même, je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Alors Guérazi n'arrive à aucun résultat. Élisée lui-même arrive à la maison. L'enfant était mort, couché sur son propre lit. Il entra, ferma la porte sur eux deux, pria Dieu. Il monta sur le lit, s'étendit sur l'enfant, mit sa bouche contre sa bouche, ses yeux contre ses yeux, ses mains contre ses mains. Il se replia sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Il se remit à marcher de long en large dans la maison, puis remonta et se replia sur lui jusqu'à cette fois. Alors l'enfant éternua. Alors ici ça repart, vous voyez, voilà, c'est le souffle, hein, le souffle. Vous vous rappelez comment Dieu a créé l'homme, il a ramassé de la poussière, il a modelé, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Et c'est pas plus difficile pour Dieu, nous respirons à chaque instant, on devrait méditer là-dessus, on expire à chaque instant on reçoit la vie. Il viendra un moment où nous remettrons notre dernier soupir, mais dans la certitude que Dieu peut nous rendre cet esprit et refaire de nous, nous recréer. C'est pas plus difficile pour lui de recréer que de créer. C'est pas une idée la résurrection, c'est une certitude de foi qui est née dans la réalité de l'histoire. Et c'est comme ça qu'il faut penser la résurrection au temps de Jésus. Et il ouvrit les yeux. Il appela Guérazi et lui dit, fais venir cette bonne Shunamite. Il l'appela. Lorsqu'elle arriva près de lui, il dit, prends ton fils. Elle entra, tomba à ses pieds, se prosterna à terre, elle prit son fils et sortit. Cette femme, par son calme, m'évoque le Stabat Mater, enfin par sa dignité, par son silence. J'ai vu un film italien là sur Jésus, où la Sainte Vierge pendant la Passion a un comportement, enfin, pas plus du tout là. Je l'imagine beaucoup plus dans la noblesse de cette femme de Shunem, là au pied de la croix. Stabat Mater, debout au pied de la croix.
Alors le prophète qui ressuscite donc cet enfant fait donc penser de même à Jésus qui se rendra également dans la chambre de l'enfant à Naïm.
Mais alors pour Naïm, alors là ça fait encore plus directement allusion à un autre miracle accompli Élisée qu'on a l'occasion de lire au Carmel. Hein. Mais lisons-le quand même puisqu'on est tout près. Hein. Il suffit de faire quelques centaines de mètres à travers cette forêt et on arrive au-dessus du village de Naïm. Et il faut mieux arriver au-dessus parce qu'il y a bien une église à Naïm qu'on voit mais la population est musulmane est plutôt hostile là et on est mal reçu quand on va... Il faut mieux le regarder d'en haut. Il suffit de faire quelques centaines de mètres. On va y aller. Je vous lis dans Saint-Luc, là, le récit de la résurrection de la veuve du fils de la veuve de Naïm. Vous trouvez ça dans le chapitre 7 au verset 11. Il advint ensuite qu'il se rendit dans une ville appelée Naïm. Il traversait la plaine d'Esdrelon, là, au nord de cette montagne. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Quand il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, un fils unique dont la mère était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. En la voyant, le Seigneur, au curios, c'est la première fois que Saint-Luc dans son évangile emploie le mot ici, curios. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'on traduisait en grec dans les Septante le tétragramme, curios. Une pitié. Ici, il y a un contraste formidable entre curios, le Seigneur, et puis le mot pitié évoque les entrailles maternelles. Pas toujours ce Dieu tout autre, et puis qui est là. Ne pleure pas. Puis s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le remit à sa mère. Ici, le texte est en italique dans mon édition de la Bible parce que ça fait allusion à un récit, pas tellement à Shunem, mais à la résurrection par Élie dans le Carmel, enfin, hein, de la femme de la païenne là, de Syrophénicienne. On lira ça quand on sera au Carmel. Tous furent saisis de crainte et glorifiés Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos se répandit à son sujet dans la Judée entière et dans tout le pays d'alentour. Moi, ce qui m'étonne, c'est que « Un grand prophète s'est levé parmi nous » n'est pas aussi en italique. Parce que l'allusion ici est dans ce texte qu'on a lu, vous rappelez, avant de passer de l'Ancien au Nouveau Testament, où Moïse lui-même prédit un autre Moïse, pas un prophète tel que lui. Et c'est d'autant plus à lire dans le paysage que à côté on a Endor, vous rappelez, on n'a pas le temps de dire le récit, la sorcière, la pythonisse que Saül va consulter contre la loi avant de mourir tragiquement sur le mont Galboa où on était l'autre jour. Et vous vous rappelez que le grand prophète dans le Deutéronome, je vais vous dire le texte parce qu'il est tellement important que c'est pas trop de le dire deux fois, est sur le fond de tableau, le repoussoir disons plutôt, pas de tout ce que les Cananéens pratiquent. Et tel n'a pas été pour toi le nom de Dieu, c'est le prophète. Et la foule s'écrie « Le prophète a surgi » à proximité de Endor, qui personnifie plus que partout ailleurs en Terre Sainte les rémanences des abominations cananéennes. L'interrogation des spectres, la nécromancienne. Tenez, vous vous rappelez ce récit là, il faudrait le relire aussi, mais on n'a pas le temps de tout lire ici. Encore une fois, c'est le caméléon sur le tissu écossais. Mais Saül va, après, il avait expulsé tous les devins, les nécromanciens, en accord avec la loi qui commandait de le faire. Et puis, pris de panique, sa psychologie complètement désintégrée, dans l'angoisse, alors il va lui-même, dans la nuit, après s'être déguisé, consulter la nécromancienne qui fait surgir Samuel là-bas. Et Samuel qui, cruellement, là, ne fait que répéter que Saül est évincé, qu'il va mourir. Je vous dis ce texte qu'on a lu du côté de Qumran là-bas, avant de, au début de cette journée charnière, quand on est passé de Moïse à Jésus-Christ, vous vous rappelez ? Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille. Ça, c'était courant chez les Cananéens. Qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Endor personnifie tout ça. Le paysage de Endor. Personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les devins, qui invoque les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu. Et c'est à cause de cette abomination que le Seigneur ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tâche vis-à-vis du Seigneur ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes, écoutez, enchanteurs et devins, mais tel n'a pas été pour toi le don du Seigneur ton Dieu. Alors ces textes solennels qu'il faut savoir par cœur, le Seigneur ton Dieu suscitera. Dans le Nouveau Testament, il y a un tout petit coup de pouce en grec, on dit ressuscitera. Suscitera pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle, que vous écouterez. C'est cela même que tu as demandé au Seigneur ton Dieu à l'Horeb au jour de l'Assemblée. Pour ne pas mourir, je n'écouterai plus la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne regarderai plus ce grand feu. Et Dieu me dit, ils ont bien parlé, je leur ressusciterai, dit le Nouveau Testament. Du milieu de leurs frères, un prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom, alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais si un prophète a l'audace de lire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle au nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Comment vas-tu dire en ton cœur, peut-être, comment va-t-on savoir que cette parole Dieu ne l'a pas dite? Si ce prophète a parlé au nom de Dieu et que sa parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors Dieu n'a pas dit cette parole-là, le prophète a parlé avec présomption, tu n'as pas à le craindre. À mon avis, ce texte, c'est à nous à faire l'examen de conscience. Enfin, voyez, parce que qu'est-ce qu'on fait pour être vraiment chrétien? Dans quelle mesure, est-ce que vraiment notre vie est en cohérence avec cet évangile que nous relisons? Et je ne saurais trop conseiller aux chrétiens de lire ce que le grand Maïmonide, dont on a parlé déjà à deux reprises, qu'on a rencontré encore à Tibériade, là, dit du messianisme. Et comment il parle incidemment de Jésus et de Mahomet. Mais est-ce que ce n'est pas de notre faute, ce langage? Est-ce que ce n'est pas à cause de nous, en grande partie, quand on a repassé toute l'histoire, on se pose vraiment la question? Et ici, la façon de vie qu'on a de vivre. Le chrétien, à mon avis, doit se demander d'abord, c'est lui qui est mis en question. Donc, parce que nous ne sommes pas cohérents avec les enseignements de Jésus. Pas assez. Il y a les saints, mais il n'y en a pas assez. Et on est tous appelés à une vocation de sainteté. Vous trouverez ça, je ne sais pas s'il y a une traduction française, il faudra interroger en France, là, de Maïmonide. Je l'ai en hébreu, je n'ai jamais traduit. C'est à la fin du traité Chofutim. Il parle du messianisme, le dernier chapitre. Et c'est à lire très attentivement pour les chrétiens. Il pose toujours la question, pourquoi est-ce que les juifs qui ont été préparés comme ça, pourquoi ils... Eh bien, qu'ils aillent lire ce chapitre-là. Ils verront comment le messianisme est pensé. Alors,